Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 122, avril, mai, juin 2018. À la une de ce numéro, enfants confiés, des lieux pour vivre et se construire, près de chez vous, page 5, Eiffel, un pont vers l'avenir, tête de Gironde, page 24, Émilie Baudray, mosaïste aux multiples facettes, Patrimoine, page 26, les castors bâtissent un monde nouveau. Éditorial de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
Anticiper les mutations, c'est conserver un temps d'avance pour que la Gironde reste à l'avant-garde. La vocation du département est d'être à l'écoute de ses habitants, de son territoire et des signaux qu'il lui envoie. Notre Gironde grandit, elle se nourrit chaque année de l'apport de près de 20 000 habitants. En nous rejoignant, ils ont fait le choix d'une qualité de vie et d'une chaleur humaine dont nous pouvons être fiers. Répartis équitablement entre la métropole, le littoral et le reste du département, ces nouvelles Girondines et ces nouveaux Girondins contribuent à la vitalité de nos territoires. Si notre Gironde est si attractive aujourd'hui, c'est qu'elle a su évoluer avec le temps. Ce modèle, plutôt que de l'enfermer sur lui-même jusqu'à suffocation, nous devons lui donner ensemble un nouveau souffle pour qu'il mêle de façon équilibrée accueil des nouvelles familles et préservation des richesses qui font notre identité. Patrimoine, espaces naturels, vignobles et forêts, fleuves et littorales, etc. Nos paysages se transforment également. Ils évoluent sous l'effet conjoint de la densification et de l'étalement urbain. Aux côtés des autres collectivités locales, le département s'efforce de promouvoir un développement durable et harmonieux du territoire girondin en favorisant les complémentarités entre ville et campagne. Anticiper les mutations, c'est conserver un temps d'avance pour que la Gironde reste à l'avant-garde. Le département réinvente en permanence ses actions pour répondre à l'évolution de vos attentes en plaçant l'innovation au cœur de ses politiques publiques.
Sommaire de ce numéro. Des pages 3 à 11, près de chez vous, avec Libournais, page 3, Médoc, page 4, Haute-Gironde, page 5, Bassin, Val-de-l'Eyre, page 6, Haut-de-Garonne, page 7, Bordeaux, page 8, Graves, page 9, Sud-Gironde, page 10, Porte du Médoc, page 11. Ensuite, des pages 12 à 23, Force solidaire, avec Dessiner aujourd'hui le paysage de demain, page 12, Solutions mobilité projets en piste, page 14. Quand je serai grand, je serai, page 16. Circuler en Gironde, page 18. Enfants confiés des lieux de vie, page 22. Enfin, à la découverte, des pages 24 à 31. Tête de Gironde, page 24. Histoire, page 26. Trésor du patrimoine, page 28. Producteur de Gironde, page 30. Ce numéro se termine avec les expressions des partis politiques, page 32-33, et l'agenda, page 34 et 35. Ça se passe près de chez vous. Libournais, à Castillon-la-Bataille, la carte de la proximité. En cœur de ville, à Castillon-la-Bataille, proche du collège, du centre culturel et des services publics, la maison de service au public, MSAP, sera ouverte au public en octobre. Une volonté, faciliter vos démarches au quotidien.
Une question sur l'emploi, la santé ou d'ordre administratif? Rendez-vous prochainement à la toute nouvelle maison de service au public à Castillon-la-Bataille, rue du 19 mars 1962. Projet piloté par la commune avec le département et la communauté de communes Castillon-Pujol, il fédère 26 partenaires institutionnels ou associatifs autour des thématiques santé, emploi, insertion et accès aux droits. Cette MSAP répond aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics en zone rurale et périurbaine, explique Bernard Cassanier, vice-président du conseil départemental. Elle permet de délivrer une offre de proximité et de qualité, et surtout d'agir sur les conditions d'accès, notamment en faveur des publics en situation de fragilité. Pour faciliter les démarches des usagers, cette structure accueillera les services du département, ceux de la commune et des partenaires institutionnels et associatifs, tels que la Caisse d'allocation familiale, la Chambre des métiers, la CARSAT, l'Association des paralysés de France ou la mission locale du Libournais. Tous ont l'habitude de travailler ensemble, mais cette MSAP renforce la dynamique partenariale. C'est un projet phare où chacun s'est investi pour faciliter le parcours de l'usager, souligne Sylvie Pointel, directrice du pôle territorial de solidarité du Libournais. Tous les services en un seul lieu. En un lieu unique, les usagers seront accompagnés par un agent dans leur démarche de la vie professionnelle et quotidienne. Un espace numérique permettra de faire face à la dématérialisation des services. Dans un souci d'accessibilité, cette maison sera ouverte au moins un jour par semaine jusqu'à 19h. Les deux grandes salles du rez-de-chaussée du bâtiment seront accessibles de façon autonome. Les institutionnels manquant de locaux sur notre territoire, de lieux de formation, c'est une réelle opportunité dans une logique d'usage et de coopération, insiste Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille et conseiller départemental du canton des Coteaux de Dordogne. Originalité enfin de cette MSAP, l'intégration de l'antenne médico-sociale de la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, MDSI, de Sainte-Foy-la-Grande. Cela permettra de renforcer l'offre des services, le travail partenarial, la bonne orientation de l'usager et d'animer un projet de territoire, se réjouit Sylvie Pointel. Ainsi interviendront différents professionnels pour l'insertion sociale, la protection maternelle et infantile, puéricultrice, sage-femme, psychologue, et enfin la permanence du centre de planification et d'éducation familiale, infirmière, médecin. Bienvenue dans cette nouvelle maison de service au public.
Le département de la Gironde finance la maison de service au public à Castillon-la-Bataille à hauteur de 380 723 euros sur un montant total des travaux s'élevant à 833 000 euros. L'ouverture de la MSAP est prévue en octobre 2018. Trouvez la MSAP la plus proche de chez vous. www.maisondesservicesaupublic.fr Renvoi 1. Les partenaires. Droit. Association de défense des droits des accidentés et handicapés. ADDAH 33. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. CAUE. Centre d'information droit femmes et familles. CIDFF. SPIP de la Gironde. Service pénitentiaire. Conciliateur de justice. Économie. Plein centre association des commerçants. Emploi. Mission locale du Libournais. Direct DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine. Centre interinstitutionnel des bilans de compétences CIBC 33. Cap Emploi. Plan Libournais d'insertion par l'économie PLIE. C3.I, Chambre des métiers de l'artisanat région Aquitaine, Tremplin pour l'emploi T2000, CCI Formation, Socrate Conseil et Formation, Santé, CAF de la Gironde, Réseau Santé Sociale Jeunes du Libournais, Association des paralysés de France APF, CPAM, CARSAT, Social, Vie Libre, Section Vallée de l'Isle, Addiction, Accompagnement, Réinsertion, Aide à la relation parent-enfant ARPE, Le Lien, CCAS Castillon, Association d'aide à l'éducation AAE, En Attente, Pôle Emploi EDF, Suez, GRDF, Plateforme Mobilité MSA. Renvoi 2. Professionnel pour l'insertion sociale appelé à intervenir, assistante de service social, conseillère en économie sociale familiale, chargée d'insertion et référente prévention. Flash.
5 février, les élus ont décidé de soutenir la réalisation d'un centre nautique à Libourne pour un montant total de 824 000 euros. Cette structure sera un élément important de l'offre sportive et de loisirs proposée à tous les habitants de la communauté d'agglomération du Libournais.
Médoc. Les uns avec les autres. Une plateforme pour créer du lien. Plateforme interactive, collaborative et gratuite entre générations les uns avec les autres. ELUALA, ELUALA, a pour objectif de favoriser les liens intergénérationnels. Lancé fin 2017, ce projet innovant est ouvert à toute personne en recherche ou désir d'accompagnement, de soutien, de partage, de reconnaissance sociale.
Développé sur le territoire médocain, ELUALA est un réseau fondé sur l'échange, le partage d'une passion, d'un savoir-faire, d'une expérience. Nous avons tous un savoir à partager, explique sa fondatrice Caroline de Dieu. Par mon parcours associatif d'accompagnement de personnes âgées et mon vécu personnel sans grands-parents, j'ai toujours été fascinée par le récit de l'expérience de vie des générations antérieures. Naturellement, nous avons d'abord pensé aux personnes qui partent à la retraite, riches d'une expérience professionnelle qu'ils voudraient transmettre. Objectif de l'association, la solidarité, créer du lien, prévenir le risque d'isolement, accompagner la réussite de l'insertion professionnelle de jeunes adultes et participer au développement de l'économie locale du Médoc. ELUALA ajoute avec bienveillance sa pierre à l'édifice des solidarités depuis l'automne dernier. Apprendre les uns des autres. Outil idéal pour créer ce réseau d'entraide, la plateforme numérique via Internet facilite la prise de contact, puis la rencontre entre générations. Ouverte à tous, gratuite et collaborative, cette base de données s'enrichit chaque jour grâce à ses contributeurs médocains. Facile d'accès, un prénom ou pseudo, un code postal et une ville suffisent à l'inscription. Caroline de Dieu précise « Les uns proposent de partager une passion métier, leur expérience de vie. Les autres déposent des demandes de besoins ou des échanges de services. De suite, la plateforme trouve une ou plusieurs réponses. Ensemble, ils créent leur réseau d'entraide intergénérationnelle sur leur territoire. Toutes les annonces et commentaires sont vérifiés par un modérateur. Premières offres proposées. CEDEE recherche une personne aimant jardiner disponible pour l'aider à créer une roseraie. Anton aurait besoin d'une personne possédant une remorque ou un utilitaire afin de transporter les déchets verts et des gravats à la déchetterie. Renathalie invite à rejoindre l'atelier couture de la Salvatech. Systématique, administratif, assistance, maison, culture, formation, transport. Et tout autant de propositions sont déclinées. Mais l'outil dépasse le cadre du territoire, complémentaire aux actions solidaires sur le Médoc. Sa vocation est de rayonner et d'enrichir le panel des services proposés. Inscrivez-vous et rejoignez la communauté. Les générations ont tout à gagner à se fréquenter et échanger davantage.
Lancement automne 2017. Reconnaissance Mona Lisa 2017. Porteur du projet et fondatrice Caroline de Dieu, Angélique Krustek, www.angélique-krustek.fr, fournisseur de la plateforme numérique. Laure Amiot, web créatrice, conseil et maintenance du site web. Gilles Pavant, ADAEQUA, ADAEQUA, conseil en stratégie numérique. Entre générations les uns avec les autres, 52 rue Corneillan, 33460 Cantenac. www.entregenerations-luala.fr. Flash.
5 février. Le département poursuit son engagement en faveur des structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes. L'EHPAD met du lit à Castelnau de Médoc d'une capacité de 80 lits d'hébergement permanent a ainsi obtenu une subvention de 800 000 euros dédiée à son projet de reconstruction pour améliorer l'accueil et la sécurité des résidents.
Haute-Gironde, Eiffel, un pont vers l'avenir. 20 mois de travaux pour réhabiliter le pont Eiffel, voilà le temps nécessaire pour assurer la pérennité d'un ouvrage à haute valeur historique, économique, mais aussi touristique, et la sécurité des usagers pour les 50 prochaines années. S'y ajoute une haute valeur de mobilité, car sans ce pont, 10 000 voitures de plus emprunteraient l'A10 aux heures de pointe.
Construit à la fin du XIXe siècle par Gustave Eiffel, le pont qui porte son nom, permet de franchir la Dordogne entre Cubzac-les-Ponts et Saint-Vincent-de-Paul. Stratégique au XXe siècle, il demeure indispensable aujourd'hui. 14 000 voitures l'empruntent chaque jour et il s'agit du seul franchissement existant à 50 km à la ronde, reliant le nord au sud, unique alternative à l'autoroute. D'où l'importance de sa conservation et des travaux. Indispensable, juge Alain Tabonne, maire de Cubzac-les-Ponts, même s'il en a connu des jours difficiles lorsque le pont a été coupé à la circulation durant 3 mois. 12 commerces dépendent de cette clientèle de passage. L'allure qu'il mérite. Ce projet d'envergure a consisté en la réhabilitation des viaducs d'accès et l'aménagement d'une passerelle cyclable en encorbellement, accolée au pont. « C'est une très belle restauration !» s'enthousiasme Max Collès, maire de Saint-Vincent-de-Paul. « Les maçonneries ont été restaurées et certaines parties plus endommagées ont été reconstruites à l'identique. Pierres rénovées ou remplacées. Voilà. » Nettoyage à haute pression jointoiement, remplissage des joints avec du mortier, ont redonné à cet ouvrage toute l'allure qu'il mérite. Il s'agissait non seulement de stabiliser l'édifice, mais aussi de le réhabiliter en consolidant voûtes et fondations. Le chantier a permis de reconstruire 3 des 28 voûtes des viaducs en pierre, sur lesquelles repose la passerelle métallique, mais également des nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris. Tourné vers l'avenir, ce projet visait aussi à créer une passerelle de 2,50 m de large, un passage sécurisé pour les piétons et vélos. Légère, suspendue au-dessus du vide, côté amont de la Dordogne, elle ne dénature pas les lignes du pont et s'intègre dans le site. Cette liaison douce entre les deux rives rencontre un franc succès. C'est une ouverture sur tout le territoire nord gironde. Beaucoup du monde s'y promène, et pas seulement des locaux, se réjouit Alain Tabonne. Avec des bancs de part et d'autre des deux rives, elle offre une vue dégagée sur la Dordogne. Cette piste cyclable qui se prolonge le long des viaducs pourrait à long terme être une alternative au tracé de la véloroute 80, itinéraire du canal des Deux Mers, qui passe actuellement par Blaye et oblige les cyclistes à prendre le bac. Reste à gravir la côte de Cubzac et à se réjouir du paysage. Exposition, chasse au trésor et jeux pour les familles, prévue lors de l'inauguration du pont Eiffel le 28 avril 2018. Coût de la rénovation, 26,8 millions d'euros financés par le département avec une aide de l'État de 16 millions d'euros. gironde.fr/ Pont Eiffel en un seul mot.
1839, premier pont suspendu pour piétons et calèches qui relie les deux rives de la Dordogne. 1879-1883, rénovation de l'édifice long de plus d'un kilomètre, requalifié par Gustave Eiffel, il prend le nom de pont des piétons alors que ses deux trottoirs sont plutôt étroits. 1948, reconstruction à l'identique par son petit-fils Jacques Eiffel, après la destruction de l'ouvrage par les Allemands en août 1944. Deux viaducs d'accès de 252 mètres chacun, tablier métallique 552 mètres. Flash.
5 février. Pour accueillir au mieux les nouveaux arrivants du territoire, les élus départementaux soutiennent la commune de Saint-Genès-de-Fronsac à hauteur de 414 000 euros pour l'agrandissement du groupe scolaire, maternel et primaire, et pour financer l'entrée en classe de nouveaux élèves.
Le bassin, nettoyage des plages, le pouvoir de la main. Après les tempêtes de l'hiver, le sable est jonché de détritus, du verre, du plastique, mais aussi des amas d'algues et de petits bois, où vient se nicher tout un écosystème. À pied, les nettoyeurs font le tri.
On les appelle des larmes de sirène. Derrière ce nom poétique, des millions de petits résidus de plastique de quelques millimètres qui empruntent des cours d'eau, traversent les océans et se retrouvent sur notre littoral. Armés de grands sacs poubelles et d'une belle dose de bonne humeur, les bénévoles les repèrent et les ramassent, ainsi que les déchets plus volumineux qui gâchent le paysage. De nombreuses associations aident les municipalités pour ces nettoyages d'avant-saison. Puis les communes prennent le relais tout au long de l'été pour veiller à la propreté, éliminer la pollution ramenée par les flots et bientôt celle des estivants. Mais la plupart des vacanciers ne trouveront pas pour autant de plages ratissées, aseptisées. Les nettoyeurs auront en effet laissé ces dépôts d'algues et de bois nommés « laisses de mer », utiles non seulement pour la biodiversité, mais également pour freiner le déplacement du sable et donc l'érosion. Laisser ce qui est naturel. Désormais, le ramassage manuel est largement privilégié. Il impacte moins la dune que les machines, ne casse pas la croûte de sable formée par les marées et n'émet pas de CO2. Surtout, il permet d'enlever les déchets, de trier pour valoriser ce qui peut l'être et de laisser tout ce qui est naturel. C'est la méthode la plus écologique. Afin de favoriser cette technique, le département aide financièrement les communes. La Teste et l'Aige sont les plus soutenues car elles ont également des plages sur la façade atlantique. Le Teche, Audenge et Arès parviennent désormais à effectuer 100% de ramassage manuel et sont encouragées dans ce sens grâce à un bonus. Chaque commune choisit son organisation, soit en affectant ses agents à la tâche, soit en déléguant à des entreprises. Tous mettent donc la main à la pâte, ou plutôt dans le sable.
En chiffres, 125 000, c'est en euros l'enveloppe allouée chaque année par le département pour accompagner les communes du bassin. 396, c'est en mètres cubes le volume de déchets collectés en une saison sur les plages de l'Aige. 69%, c'est la part des plastiques parmi ces déchets. 450, c'est en année la durée de vie d'une couche jetable. Flash.
5 février, le département, acteur majeur de la gestion et de l'aménagement des ports, vote une subvention de 4,8 millions d'euros sur 3 ans au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, SMPBA. Une aide qui accompagne les travaux effectués sur les sites portuaires de la Teste de Buche, la rénovation du port du Rocher et le dragage du port du Centre.
Eau de Garonne, médiathèque La Cabane, découverte, partage, nouvelles ressources. La Cabane, une médiathèque de 630 mètres carrés, implantée rue Georges Portman et inaugurée en décembre 2017, a remplacé l'ancienne bibliothèque de Sainte-Eulalie. Le lieu de découverte et d'échange ne désemplit pas, à l'image des autres bibliothèques sur ce territoire des Hauts-de-Garonne, où le département s'implique fortement en faveur de la lecture publique via l'équipe de biblio.gironde.
L'édification de la Cabane, nouvel espace de ressources documentaires multisupport, a été soutenue par le département à hauteur de 351 300 euros, incluant la somme versée sur 8 ans, pour les 2 emplois créés, celui de responsable de la médiathèque et d'animateur multimédia. Le premier jour d'ouverture, ce fut la ruée, d'autant que le collège François Mauriac est tout proche. Nous avons une fréquentation journalière de 80 à 90 usagers. En 2016, dans l'ancienne bibliothèque, nous avions 63 inscriptions et aujourd'hui 1430. Cette médiathèque s'oriente vers le partage des ressources libres, logiciels, jeux, musique et outils de formation. Elle va vivre au fur et à mesure des saisons, l'intérieur et l'extérieur pouvant être investis différemment. Nous sommes en train de mettre en place une programmation culturelle afin de proposer chaque mois des activités et des animations, en collaboration avec les autres bibliothèques et médiathèques de la communauté de communes, explique Valérie Delarare, responsable de la médiathèque. Toute une équipe mobilisée. Pour Cédric Chabot, bibliothécaire, il y avait de réelles attentes. Avec l'ancienne bibliothèque, on ne pouvait pas toucher tous les publics. La nouvelle médiathèque est un lieu intergénérationnel. À l'équipe professionnelle, dont Vincent Mamès, animateur multimédia, s'ajoute une équipe de 15 bénévoles, dont Betty Chatsal, élue déléguée à la médiathèque. Ce groupe motivé s'est relayé depuis mars 2017 pour en préparer l'ouverture. Le fonds documentaire comporte pas moins de 12 480 documents, livres, documentaires, CD musicaux, DVD, jeux vidéo, magazines adultes ou dédiés à la jeunesse. Grâce en particulier à biblio.gironde.fr. Les espaces thématiques permettent différents usages, tablettes, ordinateurs, liseuses, tandis que le mobilier, les luminaires et la signalétique participent au confort de chacun. Notons que le graphiste-designer bordelais Franck Talon a élaboré la charte graphique de la cabane. Sa yourte de lecture fait aussi le bonheur des moins de 10 ans. La cabane, médiathèque de Sainte-Eulalie, 14 rue Georges Portman, 33 560 Sainte-Eulalie, 05 57 34 01 41. médiathèque@mairie-ste-eulalie.fr biblio.gironde.fr.
Flash.
13 janvier. L'accueil de loisirs sans hébergement de la commune de Béchac et Caillot est inauguré. Le département, qui accorde une grande importance à la qualité d'accueil des jeunes enfants, a financé cet équipement à hauteur de 28 864 euros. Le site dispose aussi d'un espace extérieur permettant des activités ludiques de plein air.
Bordeaux, Ravesy, trois acteurs solidaires sous un même toit. Depuis juin dernier, le pôle social Ravesy accueille la halte de nuit, les Restos du Cœur et un des centres d'hébergement et de réinsertion sociale du diaconat de Bordeaux. Ce lieu unique et gage d'efficacité et de complémentarité pour ces trois associations au rôle essentiel en faveur des personnes en situation de précarité.
Le projet de relocaliser trois structures de solidarité dans un même immeuble a abouti à la naissance du pôle social Ravesy. Domo France, associé dès l'origine, a accompagné l'ensemble des partenaires, dont le département, jusqu'à l'ouverture du site. Un lieu unique dans la création duquel se sont engagés l'État, Bordeaux Métropole et la ville. Les 1600 m² ont été optimisés, permettant un usage différencié pour chacune des associations, tout en leur offrant la possibilité de partager les ressources sur place. 3 millions d'euros ont été nécessaires pour donner naissance à ce bâtiment. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, Marc Coty du diaconat de Bordeaux, propose ainsi 11 appartements et 17 chambres aux familles et aux personnes isolées. Les 45 occupants des lieux bénéficient d'un accompagnement afin que leur réinsertion soit la plus tangible possible. Uriel Tolas, directeur du pôle hébergement du diaconat, s'enthousiasme. L'installation s'est très bien passée et ce projet a valeur d'exemple au niveau national. Nous avons lancé ensemble, avec les deux autres associations, l'écriture d'un projet social commun. Les personnes que nous suivons bénéficient d'entrées autonomes dans l'immeuble, mais profitent aussi d'espaces partagés. Nous avons mis au point un conseil de maison pour partager nos expériences. Écrire un projet social commun. Caroline Aqueré, présidente des Restos du Cœur, partage ce point de vue. On a appris à se connaître et à travailler ensemble facilement, car nous nous adressons au même public. C'est un échange humain extrêmement riche. Les gens qui fréquentent la halte de nuit prennent souvent leur petit déjeuner avec ceux des restos, dans la même salle de restauration. Des liens se créent. Sur place, les restos disposent de plus de 100 places pour offrir petit déjeuner et repas gratuits sans condition. De son côté, l'équipe de la halte 33 a apprécié de bénéficier de nouveaux locaux lui permettant un accueil optimisé. Sa chef de service, Gabrielle Lenuz, confirme cette complémentarité et cette ouverture que permet le pôle social Ravesy. Qu'il s'agisse des résidents ou des personnes que nous accueillons, ils ont souvent des parcours de vie qui se ressemblent et ont évidemment des projets à bâtir en commun. Les relations avec les habitants du quartier sont aussi cordiales. Nous envisageons de mettre en place un potager partagé et de l'ouvrir aux habitants du voisinage. Un toit, en somme, sous lequel l'on peut être 3 fois plus solidaire et efficace.
En chiffres, 27 330 logements gérés par Domo France, en particulier dans la métropole bordelaise, et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. 90 000 euros de subvention du département pour la création du pôle social de Ravezy, 11 appartements et 17 chambres gérées par le centre d'hébergement du diaconat de Bordeaux, 120 petits déjeuners par jour servis par les restos du cœur, 45 personnes accueillies chaque jour par la halte 33. Flash.
5 février. La lutte contre les inégalités femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes sont des engagements forts du département. Les élus départementaux ont voté une subvention de 69 000 euros pour accompagner le projet 2018 du Centre d'information sur le droit des femmes de Gironde et une seconde subvention de 38 000 euros pour la Maison des femmes de Bordeaux.
Grave coup de jeune au collège Alfred Mauguin. Des locaux refaits à neuf, plus lumineux, et un environnement de travail apaisant, le collège Alfred Mauguin à Gradignan, inauguré en février, a fait peau neuve après 3 ans de travaux.
Leur patience a été récompensée. Les 470 élèves du collège Alfred Mauguin, leurs professeurs et les équipes administratives ont aujourd'hui un tout nouvel établissement. Réhabilité par le département à hauteur de 11,9 millions d'euros, il a été refait en quasi-totalité, à l'exception de la demi-pension déjà restructurée en 2004. Construit dans les années 1970, le collège était devenu, au fil du temps, inadapté. Les locaux étaient vieillissants et l'espace morcelé, explique Patrick Bonnefond, son principal. Une partie du collège a donc été déconstruite et de nouveaux bâtiments, plus fonctionnels, ont été créés. L'architecture est plus simple et tout est plus lumineux, s'enthousiasme le chef d'établissement. Quant à l'acoustique, le contraste est impressionnant. Auparavant, cela résonnait beaucoup dans les couloirs. C'était fatigant. Aujourd'hui, les locaux sont très bien insonorisés, ce qui crée un environnement de travail plus reposant et plus serein. Un des objectifs de la réhabilitation était d'être conforme au Grenelle de l'environnement. Au-delà de l'isolation phonique, la gestion de l'eau a été entièrement revue. Les eaux pluviales du collège sont désormais récupérées. Un mot d'ordre, l'intégration. Au collège Mauguin, l'accent est mis sur l'intégration et sur l'ouverture. 76 élèves sont en section SECPA, section d'enseignement général professionnel adapté, de la 6e à la 3e, et 13 en classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Les élèves de l'Institut national des jeunes sourds ont pour l'instant réintégré leur école, mais nous sommes prêts à en accueillir de nouveau rapidement. Après travaux, la capacité du collège est en effet passée de 500 à 600 élèves. Cette réhabilitation a changé l'image de l'établissement et donné une nouvelle impulsion, résume Patrick Bonnefond. Les enseignants sont toujours aussi investis, mais le collège donne encore plus envie d'y être. Adresse web gironde.fr/collège-mauguin.
Flash.
26 janvier, le département a inauguré une nouvelle épicerie solidaire à Villeneuve-d'Ornon, l'Escale solidaire Ensemble. Soutenue à hauteur de 61 000 euros, elle permet désormais à plus de 200 personnes d'avoir accès à des produits variés et de qualité, moyennant une faible participation financière.
Sud Gironde, la Garonne au rendez-vous du tourisme fluvial. Avec Bordeaux, parmi les destinations touristiques préférées des Français, c'est la fréquentation de tout le département qui est à la hausse et l'essor du tourisme fluvial se confirmant, il est essentiel de développer l'exploitation de la Garonne et du canal.
À l'époque où chacun prend conscience qu'il est nécessaire d'adopter un comportement écologiquement responsable, un nouveau mode de vacances se met en place, le slow tourisme. Initialement tourné vers la marche et le cyclisme, il s'enrichit aujourd'hui d'autres circuits, comme le tourisme fluvial ou fluvestre. de la réhabilitation des quais de Langoiran avec la communauté de communes des Portes Entre-deux-Mers, en lien avec les chantiers tramassés aux Tournes. En passant par Cambes et le projet de convergence Garonne, les lignes bougent pour favoriser une économie touristique prometteuse. Surfer sur la vague. C'est dans cet état d'esprit que le département et la communauté de communes de Podensac, des Coteaux de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne, Paillé, Rion, renommés depuis janvier 2017 Convergence Garonne, ont réalisé chacun une étude. Une enquête de faisabilité qui a pour but d'améliorer les conditions de navigation, d'augmenter le nombre des stations d'accueil, pontons, ports, mais aussi d'optimiser l'impact touristique et économique. Bien que menées séparément, ces deux études convergent et démontrent une forte mobilisation locale, l'intérêt du département et l'intelligence du projet. L'action visant à accroître le nombre de points d'ancrage et ainsi faciliter l'amarrage des plaisanciers et croisiéristes offrirait aux villages riverains l'opportunité d'augmenter leur fréquentation touristique et, par conséquent, de développer la notoriété et l'économie par l'achat de produits de nécessité et d'artisanat local, de visites d'exploitations viticoles, de fréquentation des points de restauration, sans compter la location d'emplacements de mouillage. Le département, sous l'impulsion de Bernard Castagnier, vice-président chargé de l'attractivité territoriale, développement économique et du tourisme, soutient les démarches d'investissement. Un appui qui prend la forme d'aide aux maîtres d'ouvrage publics, établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, pour la création de pontons, notamment, et les aménagements directs et indirects qui y sont liés. Il soutient également les territoires au titre des conventions d'action touristique qui développent des actions de promotion et d'animation touristique qui répondent au schéma de développement du tourisme voté en décembre 2017. La conjugaison de ces dispositifs a vocation à impulser de nouvelles dynamiques de développement du local et du rural, potentiellement génératrices d'emplois. Adresse internet gironde.fr/tourisme-fluvial.
Flash.
28 janvier, plus de 1000 participants se sont élancés à Ostens pour parcourir les 4 distances du trail, 8 km, 10 km, 18 km et un de 12 km en nocturne. Cette nouvelle édition, soutenue par le département de la Gironde, a connu cette année une augmentation de 25% de sa fréquentation. Le domaine d'Ostens accueillera d'ailleurs, au mois de mai et juin, d'autres rendez-vous sportifs et de loisirs à ne pas manquer.
Porte du Médoc, Arlac, objectif zéro déchet. Il a suffi de la volonté et de la mobilisation d'habitants du quartier d'Arlac, à Mérignac, pour mettre en route une opération zéro déchet. Accompagnée par l'équipe du Centre social Arts et Loisirs, ils ont vécu et vivent encore une expérience de réduction du volume des déchets ménagers, expérimentation récompensée par un trophée Agenda 21 du département.
Le quartier d'Arlac, à Mérignac, regroupe 10 000 personnes d'horizons divers, mais qui ont en commun une vraie affection pour leur lieu de vie. Le Centre social Arts et Loisirs accueille 850 familles, ce qui représente pas moins de 1 500 personnes du dit quartier. Thierry Godard, directeur du centre, précise. Nous menons des actions pour tous les publics, de la naissance à 99 ans, mais nous répondons aussi aux projets des habitants eux-mêmes. C'est dans cet état d'esprit que 50 familles ont souhaité se lancer le défi du zéro déchet. Nous les avons accompagnées avec le même enthousiasme. D'octobre dernier au mois de juin prochain, les acteurs de ce projet ont donc fait la chasse aux vilains déchets, pesé régulièrement leurs poubelles et obtenu assez rapidement des résultats. Cette opération est conduite en partenariat avec la ville de Mérignac et Bordeaux Métropole dans le cadre de son opération de peser les poubelles. Tous les mois, des ateliers ont été proposés dans le centre social aux volontaires qui ont pu échanger entre eux et avec nous pour trouver tous les moyens de réduire la production des déchets. La transmission de gestes vertueux. au rang des conseils, en associant les commerces du quartier d'Arlac et des alentours, les habitants ont pu découvrir de nouvelles habitudes de consommation, comme emporter des Tupperware pour faire leurs courses et éviter les emballages inutiles, ou encore fabriquer eux-mêmes leurs produits ménagers. Thierry Godard s'enthousiasme. Le 23 juin prochain, nous ouvrirons un village zéro déchet, pour qu'au fil de la journée, ces pionniers puissent transmettre leur expérience et que nous lui donnions un prolongement dans le cadre des actions que mène aussi le centre social autour de l'économie sociale et solidaire ou de la protection de l'environnement. L'action des habitants d'Arlac, soutenue par Arts et Loisirs, a été récompensée par le département, qui lui a attribué un trophée Agenda 21 pour encourager un acte citoyen et collectif particulièrement exemplaire. Dans ce quartier de Mérignac, gageons que les poubelles sont un peu plus propres, plus légères et plus belles qu'ailleurs. Arts et Loisirs Arlac, centre socio-culturel, avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette, 33 700 Mérignac, 05 56 99 55 33. Adresse internet www.artsetloisirsarlac.fr. Contact @artsetloisirsarlac.fr. Arts et loisirs, tout au pluriel.
Flash.
5 février. Le département de la Gironde soutient les acteurs culturels dans la réalisation de leurs projets en faveur de la vie artistique. C'est ainsi qu'une subvention de 50 000 euros a été attribuée au Krakatoa de Mérignac pour soutenir la création, la diffusion, l'accompagnement à la professionnalisation, l'action culturelle et les pratiques amateurs.
Force solidaire. Aménagement du territoire, dessiner aujourd'hui le paysage de demain. Avec 20 000 nouveaux habitants chaque année, la Gironde peut s'enorgueillir d'un pouvoir de séduction certain. Cette attractivité, il s'agit de l'assumer en faisant face à des besoins croissants d'aménagement du territoire, mais aussi en veillant à préserver la qualité des paysages. Tour d'horizon.
Les besoins nouveaux en termes de logement, de routes, d'équipements publics, riment avec une urbanisation qui, inexorablement, grignote sur les espaces naturels. En Gironde, chaque jour, 3 nouveaux hectares sont artificialisés. Face à ces mutations, la capacité d'accueil du département doit certes évoluer, mais sans perdre de vue un certain équilibre écologique et paysager. Avec la politique Paysage 33, le département se mobilise pour la préservation du cadre de vie. Il le fait pour ses propres projets, bien sûr, mais aussi en s'engageant auprès des communes, ou encore en se portant acquéreur de terrains afin de protéger des espaces naturels sensibles. Car préserver ce patrimoine met non seulement en jeu notre qualité de vie, mais également celle des générations futures. À Langon, des quais réhabilités pour dynamiser le centre-ville. Ça vous plaît, le nouvel aménagement? Oui, mais dites-moi, c'est bientôt fini, les travaux? En tout cas, j'espère que ça va faire revivre le quartier. Conversation glanée sur les quais de Garonne, à Langon, entre Jérôme Guilhem, adjoint au maire, chargé de l'environnement et de l'habitat, et une riveraine promenant son chien. Si le port de Langon n'est plus le centre névralgique du commerce du vin et du bois, qu'il était au XVIIe siècle, la capitale du Sud Gironde séduit de plus en plus et souhaite insuffler une dynamique nouvelle à son centre-ville. Dans la continuité de l'aménagement du parc des Vergers, l'esplanade des quais a été entièrement rénovée en un lieu de promenade, de repos et de contemplation du fleuve, tout en maintenant le marché hebdomadaire et des stationnements, détaille l'élu. Et la réhabilitation va se poursuivre au niveau des chemins de halage et de l'escalier sur la rivière. Le montant des travaux s'élève à quelque 1,47 million d'euros auxquels le département a participé, à hauteur de 316 143 euros. Sur ce projet de longue haleine, le département a été associé dès le début, faisant intervenir ses paysagistes et ses urbanistes pour appréhender les problématiques dans leur globalité. car si des aides techniques et financières existent pour soutenir les communes dans leur effort d'aménagement, les dossiers doivent être portés par des spécialistes. En effet, le taux de subvention varie ensuite en fonction de la qualité du projet, selon une grille de critères élaborés avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Lire par ailleurs. Ici, le parti pris paysager, porté par la paysagiste Graziella Barsac, a été d'intégrer l'histoire des lieux dans l'aménagement. Évocation de l'ancienne muraille, du puits artésien, marque des crues dans le sol, réhabilitation des pavés Napoléon. Comme quoi le passé peut être source d'inspiration pour l'avenir. Un observatoire du parc naturel des Landes de Gascogne. Belin-Bélier, route de Bayonne, Éléonore Genot, chargée de mission urbanisme et paysage au parc naturel des Landes de Gascogne, ouvre les portes de l'ancienne école communale devenue maison du parc. Elle raconte. Nous constations une forte pression urbaine et des mutations du paysage, sans toujours arriver à les anticiper. Or, faire des choix d'aménagement du territoire renvoie à des questions culturelles et d'identité. De là est né, en 2014, un observatoire photographique du paysage. Dès l'année suivante, le photographe Guillaume Bonnel a sillonné le parc à vélo et photographié 100 sites représentatifs de la diversité de ces paysages. En 2017, il est retourné sur les lieux pour effectuer le même travail. Mêmes conditions, mêmes angles de prise de vue, et toujours à hauteur d'homme. Objectif de ce diagnostic sensible, observer les changements, les comprendre, et s'interroger sur les actions à mener pour préserver la qualité des paysages. Les départements de la Gironde et des Landes soutiennent le projet, de même que la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Les clichés font l'objet d'expositions itinérantes et seront présentés à l'écomusée de Marquèze, 40, à partir du 1er avril 2018. En appui, l'expertise du CAUE. Partenaire du département, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement intervient en amont des projets des collectivités locales, mais aussi des particuliers. Sa mission, conseiller dans l'intérêt général afin que chaque projet corresponde aux besoins des usagers et s'intègre au mieux dans le paysage, l'espace et le temps. Le CAUE propose également des permanences gratuites. gironde.fr/paysage www.caue-gironde.com.
Point de vue de Jean Touzeau, vice-président chargé de la valorisation du patrimoine environnemental et touristique. Il en va de notre responsabilité de maintenir une qualité de vie qui a fait la réputation de la Gironde. Face à l'attractivité qu'elle suscite, elle ne doit pas sacrifier ce qui fonde sa personnalité de terre d'accueil. Le département doit se donner tous les moyens, en partenariat avec les acteurs locaux, de contribuer à cette nécessaire pérennisation.
En chiffres, 9 millions d'euros consacrés au dispositif paysage depuis 2003 pour soutenir 223 projets, 41 projets pédagogiques de sensibilisation dans les collèges, 96 zones de préemption sur tout le département afin de préserver le patrimoine naturel et paysager, soit 16 699 hectares. 3 120 hectares sont propriété du département pour entretenir, conserver ce patrimoine et le rendre accessible au public.
Solidarité, solution, mobilité, projet en piste. En France, 20% des personnes en âge de travailler rencontrent des difficultés de mobilité, ce qui représente 6 à 8 millions de personnes. Voir http://lafabriquedesmobilités.fr/article/liberté-égalité-mobilité/. Besoin d'une aide pour utiliser différents modes de transport, pour le passage du permis de conduire, pour la location d'un véhicule. Le département vous propose des solutions. Ce dispositif apporte des solutions adaptées aux Girondins, inscrits dans les démarches d'insertion et dont les difficultés de déplacement pèsent sur le parcours de vie. Répartition 2018 des plateformes mobilité du territoire girondin. Plateforme du Médoc.
Opérateur Wimove. Date de démarrage, novembre 2017, suite à un appel à projet du département.
Plateforme du bassin d'Arcachon, Val de l'Eyre.
Opérateur Wimove. Date de démarrage, octobre 2017, suite à un appel à projet du département.
Plateforme de la Haute-Gironde.
Opérateur Wimove, date de démarrage, décembre 2015. 164 personnes, accompagnées en Haute-Gironde, 379 BCM auprès du public, insertion 23 seniors accompagnés, une personne sur quatre en moyenne doit faire face à plusieurs freins dans sa mobilité, une amélioration de la mobilité dans au moins 75% des accompagnements clôturés.
Plateforme du Libournais.
Opérateur Alter Ego. Date de démarrage, mars 2015. 1013 personnes accompagnées en Libournais. Dans le cadre de diagnostic mobilité depuis février 2015, public accueilli, une majorité de femmes, 65%, et de moins de 44 ans, 58%. 8% sont demandeurs d'emploi. 50% bénéficiaires du RSA. 8% sont en situation d'emploi. Organisation, 4 à 5 fois par an d'ateliers découvertes de l'ensemble des moyens de transport.
Plateforme de l'agglomération bordelaise.
Opérateur Wimove. Date de démarrage, décembre 2012. 726 personnes accompagnées à Bordeaux. 3121 BCM auprès du public insertion. 470 seniors accompagnés. Une personne sur deux en moyenne doit faire face à plusieurs freins dans sa mobilité. Une majorité de femmes accompagnées, qui vivent plus souvent seules avec des enfants à charge. Un taux de retour maintien dans l'emploi ou la formation moyen de 40%. Une amélioration de la mobilité dans au moins 75% des accompagnements clôturés.
Plateforme T-Cap en Sud-Gironde.
Opérateur Cap Solidaire. Date de démarrage, novembre 2016. 398 personnes accompagnées en Sud-Gironde depuis la mise en place de la plateforme. La majorité des personnes reçues n'a pas le permis de conduire, 84%, et rencontre des difficultés dans l'utilisation de l'offre de transport proposée sur le territoire, 63%. Différentes thématiques sont abordées comme la location de véhicules, l'accès au permis de conduire, l'accompagnement au microcrédit, la formation, le transport en commun, la mobilisation d'un taxi solidaire.
Les initiales BCM signifient bilan de compétences mobilité.
L'adresse https://www.wimove.org/plateforme-nouvelle-aquitaine. L'offre de location sociale de véhicules en Haute-Gironde. Location de scooters avec l'action Interscoot portée par la mission locale. Location, achat et réparation de voitures avec l'association Apreva grâce à l'ouverture de 4 nouveaux points relais. Location de véhicules, mise en place par le Centre intercommunal d'action sociale, CIAS, en partenariat avec Wimove et l'Apreva, qui cible de façon très réactive les travailleurs au niveau de ressources inférieures au seuil de pauvreté. Plateforme mobilité. Lieu ressources, les plateformes mobilité, composées d'une équipe de conseillers, vous accompagne dans la recherche de solutions pour vos déplacements. Vous y trouverez des réponses adaptées à votre situation. Ces plateformes sont réparties sur les territoires de Bordeaux Métropole, du Sud-Gironde, du Libournais, de la Haute-Gironde, du Bassin et du Médoc. Qu'est-ce qu'un bilan de compétences mobilité ? Il s'agit d'un entretien avec un conseiller afin de définir les atouts, le potentiel et les freins liés au mode de déplacement. Échanger sur la situation professionnelle, familiale, économique permet de comprendre comment aider le bénéficiaire à mieux se déplacer. Rappelons que les freins psychologiques à la mobilité résultent souvent de peur. Bien que pouvant bénéficier d'aide, nombre de personnes n'osent pas emprunter les transports en commun, voire ne prennent qu'une ligne de bus et aucune autre.
Témoignage de Nicole Abdelhal de Blaye.
Handicapée physique, la voiture m'est indispensable. Le jour où elle est définitivement tombée en panne, cette immobilité forcée est vite devenue insoutenable. Très rapidement, la plateforme WeMove m'a mise en contact avec une autre association, Apréva à Lormont. J'ai ainsi pu louer un véhicule pour un tarif préférentiel calculé en fonction de mes revenus et me rendre à la formation professionnelle que je suivais. Par la suite, WeMove m'a appuyé et aidé à constituer un dossier afin que je puisse acheter une nouvelle voiture grâce à un microcrédit sur 6 mois.
Les opérateurs de mobilité. 3 associations œuvrent pour faciliter la mobilité quotidienne. WeMove, W-I-M-2-O-V. Depuis plus de 15 ans, WeMove relève le défi d'accompagner le plus grand nombre de personnes vers une mobilité autonome et durable en mettant en place et coordonnant 27 plateformes présentes sur 20 départements français. Ces lieux proposent une offre personnalisée adaptée aux besoins des personnes en difficulté de mobilité ainsi qu'une palette d'animations variées. Deuxième association, Alter Ego, laboratoire d'ingénierie qui travaille en matière d'accompagnement social et de formation. Alter Ego a été créé en 2004 dans le but de participer au développement économique et social des territoires girondins en favorisant l'insertion, le maintien dans l'emploi et l'épanouissement dans l'entreprise des femmes et des hommes. Troisième association, Cap Solidaire, union des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Sud-Gironde. Sa finalité est de maintenir, promouvoir et développer l'emploi non délocalisable en Sud-Gironde. Pour qui ? Tous les publics en situation de fragilité qui rencontrent des problématiques de mobilité. Manifestation.
Parcours vélo découverte à Blaye le 16 juin 2017. En présence d'élus locaux et munis de vélos prêtés par le département, les participants ont pu suivre un parcours mis en place par la plateforme Haute-Gironde de WeMove, tout en étant sensibilisés à la mobilité durable et responsable. Ont été diffusés différents renseignements sur l'offre de location de scooters à tarif social et sur le lien entre l'apprentissage du vélo et le permis de conduire.
Collégien, quand je serai grand, grande, je serai policier, policière, journaliste, agriculteur, agricultrice, chef, chef de chantier, graphiste, avocat, avocate, fleuriste, etc. L'année de troisième est cruciale. Elle détermine une première orientation qui peut avoir des effets durables. Voie générale, chemin professionnalisant, option langue. Difficile de faire un choix quand on a 14 ans. Ainsi, le stage de découverte de la vie au travail donne un éclairage des plus intéressants. Le département met en place une plateforme numérique pour stimuler les relations entre chefs, chefs d'entreprise, parents, enseignants et enfants. Un pari, faire que ce stage contribue à éclairer les choix d'orientation des collégiennes et des collégiens.
L'Assemblée départementale a voté, dans son plan jeunesse, le principe de mise en œuvre d'une plateforme numérique dédiée au stage des élèves de troisième. Le département entend ainsi aider les collégiens, en particulier ceux les plus éloignés des réseaux professionnels, à trouver un stage d'observation qui corresponde à leurs recherches. Cet outil numérique, mis en œuvre aux côtés de l'éducation nationale, en complément des dispositifs existants, est au service de ce moment inscrit dans le parcours scolaire obligatoire des collégiens. Au-delà du recensement des offres, la plateforme servira de lien entre parents, élèves, anciens stagiaires et chefs d'entreprise, mais aussi avec l'ensemble des acteurs impliqués dans ce dispositif. Aucune plateforme de ce type n'existait en Gironde jusqu'alors. fruit du travail de plusieurs directions du département ouvertes aux partenaires du terrain, la plateforme sera expérimentée avant de devenir pleinement opérationnelle au cours de l'année scolaire 2018-2019. Pionnier du bassin d'Arcachon. Joël Confoulan préside le club business du bassin d'Arcachon, C2BA. Il est à l'origine d'initiatives qui répondent pleinement à la philosophie du projet de plateforme départementale qui s'inscrit dans le dispositif national du parcours d'avenir, loi de 2013. Père et chef d'entreprise, il a connu les difficultés que peuvent rencontrer les collégiens. Il ne faut jamais oublier que nous avons 30 ans de décalage avec nos enfants, donc c'est difficile de connaître leurs aspirations. Par ailleurs, ils ne vont pas aller volontiers vers la nouveauté. Pour prendre une image, quand on les amène pour la première fois au restaurant chinois, ils choisiront plus spontanément le riz ou les crevettes, plutôt que les nems ou les bouchées vapeur. Si les forums métiers ont leur intérêt, il est ainsi évident qu'un pompier, un gendarme ou un aviateur ont plus de chances de séduire les enfants qu'un géomètre, un ostéopathe ou un plombier. Fort de ce constat, Joël Confoulan a mis en place plusieurs dispositifs. D'abord, il a lancé des rencontres de filières destinées aux enseignants pour les sensibiliser à la réalité des entreprises du secteur. Il a ensuite impulsé Reporter en entreprise, avec des journalistes de la Dépêche du Bassin, d'Info Bassin et de Sud-Ouest, nous avons formé les jeunes aux techniques du reportage. Ensuite, ils sont allés interroger des entrepreneurs pour réaliser un vrai journal qui sera présenté au mois de juin aux enseignants et aux parents. Enfin, notre chef d'entreprise, proche de la retraite, a lancé ce qu'il appelle des naissains. Avec les naissains, nous faisons appel à des entreprises volontaires pour recevoir des jeunes, constituer une banque de données et un guide de réception des collégiens. Ce sont d'ailleurs les pactes territoriaux mis en œuvre par le département qui ont permis de faire le pont entre cette initiative, les collèges concernés et la plateforme. Nécessité sociale et de service public. L'initiative du département rencontre un même enthousiasme sur le territoire des Portes du Médoc. Émilie Marchès ou Zitane, vice-présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves de la Gironde, FCPE, témoigne. Il est essentiel de rendre concrète l'égalité des chances, que les enfants aient des parents au chômage ou en situation de fragilité. L'accès au stage de troisième devient plus difficile. L'initiative du département relève d'une nécessité sociale et de service public. La plateforme des stages, qui sera également expérimentée en Sud-Médoc, a bien pour objectif de rétablir cet équilibre entre les collégiens. De cette manière, nous nous donnons plus de chances d'offrir aux enfants des stages efficaces tout en les rendant plus autonomes dans cette expérience, ponctue Émilie Marchès ou Zitane. Au collège de la Réole, 7 minutes pour un choix. Les élèves de 3e du collège Paul Esquinance de la Réole ont vécu, eux, une expérience qui leur a ouvert les yeux sur le monde professionnel et sur leur propre potentiel. Nathalie Cazay, principale de l'établissement, explique: nous sommes sur un secteur où, jusqu'il y a peu, 10% des élèves sortant de 3e s'évaporaient dans la nature. De plus, nombre de collégiens sont peu mobiles en raison des difficultés que rencontrent leurs parents. Nous avons travaillé pour que les enfants puissent découvrir des métiers en réolé, au plus proche de chez eux. Autour d'elle, répondant à sa mobilisation, le maire de la Réole, Bruno Marty, enseignant au collège, mais aussi deux professeurs très motivés, Luc Arnaud et Alexis Rivier, ont contribué à faire bouger les lignes. Résultat, au mois de décembre dernier, un forum des métiers a été organisé réunissant 60 professionnels devant plus de 300 enfants au gré de 3 pôles représentant chacun un champ professionnel. Nathalie Cazaille commente. Durant les 7 minutes que durait chaque entretien, les jeunes ont découvert certaines professions dont ils ne connaissaient pas l'existence, comme l'optique ou le métier de tailleur de pierre. Certains se sont découverts une vocation, tel ce collégien encouragé à améliorer ses résultats scolaires pour travailler la pierre, un jour. Au collège Paul Esquinance, l'initiative du département de créer une plateforme de stage recueille un avis très positif, à condition naturellement que les offres tiennent compte du peu de mobilité de certains collégiens et favorisent donc les potentialités locales. Message reçu. Un journaliste en herbe. Antoine, élève de 3e au collège Astignan de Saint-Médard-en-Jalles, a fait son stage au département qui veille à ouvrir ses directions et services aux collégiens. L'objectif du jeune stagiaire, voir comment fonctionne un magazine comme Gironde Mag, avant de se frotter plus tard à un quotidien, une radio ou une télé. Antoine voudrait être journaliste. Ce que j'aime, et ce que j'ai pu voir, c'est le partage avec les gens, la sensation que les sujets sont préparés par une équipe soudée. Son mémoire rendu, Antoine entend bien finir l'année pour intégrer l'an prochain le lycée Sud-Médoc, en attendant l'école de journalisme, et ses rencontres l'ont conforté dans son choix.
En chiffres, rentrée scolaire 2017, 61 288 collégiens inscrits dans un établissement public en Gironde, dont 1979 en section d'enseignement général professionnel adapté, SECPA. 12 597 élèves inscrits dans un collège privé. 14 044 collégiens sont inscrits en classe de 3e dans le public. 3010 élèves sont en classe de 3e dans le privé. 530 collégiens en SECPA dans le secteur public.
Point de vue de Guy Moreno, vice-président chargé de la politique éducative et sociale et des collèges. Très tôt, les adolescents sont confrontés à des choix qui vont peser sur leur devenir professionnel. Pour beaucoup d'entre eux, ces stages sont un premier contact avec le monde de l'entreprise et du travail. Notre but, c'est, là aussi, que l'égalité des chances soit une réalité tangible. Société. Circuler en Gironde, changement de braquet. Le département a contribué aux Assises nationales de la mobilité, allant ainsi au-delà de ses compétences, confirmant son rôle d'acteur majeur des mobilités durables. Sur un vaste territoire comme la Gironde, les modes de déplacement sont un sujet crucial. Que l'on se rende à son travail ou que l'on circule pour ses loisirs, force est de constater que privilégier la voiture ne va pas sans inconvénient. L'engagement de la collectivité départementale a été souligné lors d'une table ronde qui s'est tenue le 5 mars, réunissant autour du président Jean-Luc Glaize, des représentants d'usagers de la route, en particulier du Médoc, des motards, un acteur du cyclotourisme, mais également un expert de la mobilité du CEREMA. Un point d'accord, il convient au plus vite de changer de braquet. Cet article est illustré d'un dessin où un homme dit à une femme « Ça m'a épuisé ces embouteillages », ce à quoi la femme lui répond « Tu devrais venir en vélo, c'est le nouveau tire-bouchon bordelais. »
La majeure partie des déplacements se fait encore en voiture en Gironde, 78% pour l'ensemble des trajets domicile-travail et jusqu'à 90% quand il s'agit d'aller faire ses courses au supermarché. Pourtant, la puissance publique se mobilise et le département se situe en première ligne pour promouvoir des modes de transport alternatifs à la voiture. Il s'agit d'impulser le changement des comportements et d'inviter les partenaires des territoires, communes et regroupements intercommunaux, comme les citoyens, à prendre toute leur part dans cette mutation. Pour mémoire, si la loi NOTRe, portant sur la nouvelle organisation territoriale, a transféré les transports publics routiers du département à la région, la collectivité départementale conserve la compétence du transport des élèves et des étudiants handicapés, l'ensemble du réseau routier, y compris les axes nationaux, mais aussi le transport maritime et les pistes cyclables. Une collectivité départementale très engagée aussi en faveur du covoiturage.
La Gironde, un territoire aux multiples enjeux, littoral, sécurité, mixité, nouvelle mobilité, communication, zone urbaine et périurbaine.
Sécurité, inégalité, fraternité. Lors de la table ronde du 5 mars à Bordeaux, le président Jean-Luc Glaize rappelait d'abord quelques fondamentaux.
Si nous avons perdu une grande partie de la compétence en matière de transport qui a été transférée à la région, nous sommes évidemment très impliqués sur ce sujet de la mobilité et des déplacements des Girondins. D'abord, nous conservons l'autorité sur les deux transbordeurs ou BAC Girondins qui embarquent plus d'un million de passagers par an. Ensuite, nous devons moderniser et entretenir hors métropole 6400 km de route, dont 350 km de pistes cyclables. Je ne crois pas me tromper en disant que nos routes sont globalement en bon état. Nous avons aussi un engagement très fort pour aider les communes à mettre en place des modes de déplacement doux. C'est ainsi que nous avons participé au financement de 94 aires de covoiturage et une quarantaine de plus verront le jour très prochainement. À cet égard, on peut regretter que les parcs relais de la métropole n'aient pas été mis en place à l'extérieur du périmètre strictement métropolitain. Cela aurait évité bien des situations de blocage routier. Enfin, et j'y tiens, il ne suffit pas de dérouler du ruban de bitume. Il nous faut privilégier une mixité de solutions pour contribuer à générer de nouvelles habitudes de déplacement. L'essor du haut débit numérique qui apporte des solutions professionnelles et de services doit aussi nous interroger. Faut-il se déplacer aussi souvent et loin? Nous sommes à l'aube d'une véritable révolution des usages en matière de déplacement.
José Bertin, secrétaire de l'association Nature et Déplacement au cœur du Médoc, partage ce point de vue. Mais le pondère à cause de situations économiques locales particulières.
Dans le sud du Médoc, les gens ont l'habitude de se déplacer pour rejoindre la métropole. Mais au nord, c'est différent. Nous avons besoin de liaisons rapides et sécurisées quand on sait que des gens viennent de Bordeaux pour aller travailler, entre autres exemples, à la clinique de l'Espart ou au lycée de l'Espart-Pauillac. Nous avons aussi un problème de liaison transversale, hors de la façade atlantique. Les moderniser, c'est aussi la condition sine qua non pour améliorer la situation économique du Médoc.
L'amélioration du réseau routier, c'est de l'horlogerie de pointe et le Médoc n'échappe pas à notre programmation.
De répondre Jean-Luc Glaize.
Mais si nous conduisons une politique de pactes territoriaux ambitieux pour accompagner de manière différenciée leurs projets, si nous voulons renforcer les villes d'équilibre comme l'Espart et Pauillac en Médoc, ou encore Blaye-Castillon, c'est bien parce que nous sommes persuadés que l'essor économique ne peut reposer sur la seule métropole. Cet équilibre à trouver aura une influence sur les modes de déplacement.
Nicolas Leclerc, délégué de la Fédération française des motards en colère 33, délégué bénévole de la Mutuelle des motards, souligne, lui, combien les deux roues participent déjà à la transformation des modes de déplacement.
La moto, comme on l'imagine, avec des motards qui sillonnent les routes pour leurs loisirs, c'est une chose. Mais nous avons surtout affaire avec un grand nombre d'usagers qui utilisent moto et surtout scooter pour des trajets maison-travail pour en finir avec le problème des bouchons. La moto, c'est une forme de souplesse dans une société très réglementée, même si nous sommes pleinement conscients des contraintes liées à la sécurité.
Gilles Lavandier, président du comité départemental de cyclotourisme, rebondit à ses propos.
La manière de faire du vélo a elle aussi changé. En ville, le nombre de cyclistes a considérablement augmenté, avec les inconvénients que cela suppose, dont la cohabitation entre voitures, vélos et piétons. Pour la pratique de loisirs aussi, nous avons vu les choses bouger. Le vélo électrique a permis d'ouvrir nos circuits aux personnes plus âgées, mais aussi aux jeunes, attirés par son originalité.
Voitures, vélos électriques ou non, motos, tout ce petit monde doit cohabiter dans un environnement qui n'a pas été conçu à cet effet et dont les mutations s'imposent. Gilles Duchamp, expert international au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement sud-ouest, CEREMA, commente.
C'est un sujet complexe. La route est un espace restreint, où se croisent des véhicules de tout type transportant des usagers poursuivant des objectifs multiples. C'est effectivement une question liée à l'aménagement du territoire. La réponse ne réside pas tant dans le nombre de véhicules à écouler que dans le nombre de personnes ou la quantité de marchandises à transporter, à nombre de véhicules égal, voire moindre. Il faut trouver des solutions alternatives.
Pour désenclaver le Médoc. Jean-Luc Glaise a répondu aux problématiques spécifiques du Médoc, tout en rappelant que des situations locales peuvent être comparables dans d'autres secteurs du département. Jean-Claude Dell, trésorier de l'association Survivre sur la 1215, soulignait ainsi
« La 1215 est accidentogène et on met en moyenne 2 heures pour rallier le Verdon à Bordeaux. D'épineux problèmes subsistent les contournements de l'Espar, l'Istrac et bien sûr le Taillant. »
La réponse du président a fusé sans ambiguïté.
« Nous avons un programme de 160 millions d'euros pour les routes du Médoc. C'est dire si nous sommes sensibles au sujet. Plus de 7 kilomètres sont prévus pour les 2x2 voies. Chaque fois que l'on pourra améliorer la fluidité et la sécurité, nous le ferons. Je pense au contournement de l'Espar, au recalibrage d'Ourtin ou encore à Mako. Le contournement de l'Istrac est dans le viseur. Quant au Taillant, nous avons été bons élèves sur le sujet, nous avons respecté les prescriptions écologiques et nous attendons le feu vert du préfet pour démarrer les travaux. »
De son côté, José Bertin, pour Nature et déplacement au cœur du Médoc, évoquait les tarifs du bac entre Blaye et le Verdon.
« La traversée reste chère, en moyenne 30 euros pour 2 personnes en voiture, frein aux relations entre les 2 rives. »
Jean-Luc Glaise s'est voulu précis.
« Il est impossible, de par la loi, de différencier les tarifs entre les Médocains et les autres passagers. Si on dégrade le modèle économique, ce sont tous les Girondins qui seront pénalisés. Mais nous réfléchissons sur ce sujet. »
80 km à l'heure et alors. Une rencontre autour des routes en Gironde ne pouvait faire l'impasse sur la décision du gouvernement de ramener la vitesse maximale autorisée sur les nationales et départementales de 90 à 80 km/h.
Nous avons demandé une dérogation au préfet pour la 1215 afin de ne pas pénaliser davantage le trafic. Nous avons obtenu un non catégorique.
Précise Jean-Luc Glaise. Du côté des motards en colère, Marianne Grand, coordinatrice de l'association, souligne.
80 km/h, ce n'est pas la priorité. Il faut mesurer l'état des routes, mais aussi le comportement des gens. Le test de l'abaissement de la vitesse au Danemark a prouvé que le nombre des morts n'a pas baissé.
Même avis pour le délégué de Fédération française des motards en colère 33, Nicolas Leclerc.
C'est une mesure spectaculaire avec un effet d'annonce en direction de l'opinion publique.
José Bertin, pour Nature et déplacement au cœur du Médoc, lui est
contre la limitation à 80 km/h. La vitesse doit être calculée en fonction de la configuration des routes. Cette mesure symbolique est inutile.
Pour Gilles Duchamp, CEREMA Sud-Ouest,
il est prévu que le choix gouvernemental fasse l'objet d'une évaluation, car la sécurité routière est la résultante de l'interaction de nombreux paramètres. Ainsi, les statistiques girondines montrent des spécificités. Je pense à la drogue ou à l'alcool. Pour autant, de 80 à 90 km/h, c'est près de 30% d'énergie en plus. Aller moins vite, c'est préserver la vie des autres comme la sienne et dépenser moins d'énergie.
Pour conclure, un débat riche et multiforme. Il a été demandé aux participants d'énoncer leurs priorités à l'avenir. Marianne Grand, Fédération française des motards en colère 33, espère ainsi
un code de la route qui tienne compte des motards et un vrai partage des axes routiers.
Du côté du Médoc, José Bertin et Jean-Claude Dell souhaitent assister à un désenclavement significatif de leur territoire. Gilles Lavandier, pour les cyclotouristes, imagine
un essor du réseau cyclable en site propre plus fort encore. Je souhaite aussi l'abandon de l'usage de pistes en milieu urbain entre routes et places de stationnement.
Quant au président Jean-Luc Glaise,
nous devons inventer ensemble la mobilité entre les modes doux de déplacement et l'e-mobilité numérique. Nous avons tous la volonté d'améliorer concrètement cette question liée à l'aménagement durable de notre département.
En chiffres, 6400 km de routes gérées par le département, dont 350 km de pistes cyclables en site propre sous gestion départementale et 94 aires de covoiturage, 130 à court terme. 82% des déplacements se font en voiture et 78% pour les déplacements domicile-travail. 90% des Girondins vont au supermarché en voiture. 1,25 million de litres de carburant consommés chaque année par les Girondins. 58% des accidents de la route ont lieu hors agglomération. 3% des déplacements se font à vélo, 20% à pied et 7% en transport en commun.
Le RSA, c'est un droit.
Le droit de ne pas vivre à l'écart.
Avec le RSA, le département ne laisse personne de côté. Gironde.fr/RSA. Enfants confiés. Des lieux pour vivre et se construire. Créé en octobre 2017, le PASSAGE, PASSAGE, est le dernier-né des lieux de vie et d'accueil de Gironde. La mission de ces microstructures est d'accueillir des jeunes en difficulté confiés au président du conseil départemental et de leur proposer un accompagnement sur mesure. Rencontre.
Quand un jeune arrive ici, ce que l'on espère, c'est qu'il va se poser. Se poser dans tous les sens du terme, explique Sylvie Dubois, fondatrice et responsable du PASSAGE sur la commune des Peintures dans le nord du département. Géré par l'association Akasha, c'est l'un des 9 lieux de vie et d'accueil girondins. Accueillant de 3 à 7 jeunes, encadrés par des adultes permanents ou aides permanents, ces lieux sont l'une des réponses proposées par le département au sein du dispositif de protection de l'enfance. À côté des familles d'accueil et des maisons d'enfants à caractère social, MECS, ou également appelées MEX, leur vocation est d'accompagner des jeunes rencontrant des difficultés familiales, sociales, psychiques ou affectives. Sylvie Dubois a fait le choix de ne pas vivre sur place, même si elle habite ici le plus clair de son temps. Une manière de créer une distance symbolique. Autour d'elle, une équipe de 4 personnes complémentaires et soudées dans leur mission d'accompagnement. Derrière des fonctions d'éducateur, de maîtresse de maison, d'assistant permanent ou d'homme d'entretien, chacun dispose en fait de plusieurs casquettes. Nous sommes polyvalents, raconte Anne-Laure, éducatrice, nous pouvons tous intervenir pour nous adapter aux besoins des enfants. Une super cohésion de groupe. J'essaie de dire à l'équipe de se faire plaisir, explique Sylvie Dubois. Si chacun met du sens dans son approche et qu'il l'explique à l'enfant, alors on va y arriver. C'est un gros investissement personnel. Nous allons chercher loin nos réponses éducatives. Et on a une super cohésion de groupe. Une recette personnelle est savamment dosée, tout comme celle de Simon, prénom modifié, qui sort en trombe de la cuisine pour annoncer fièrement que son gâteau au chocolat, préparé avec Delphine, la maîtresse de maison, est maintenant dans le four. Et que forcément, il sera très bon parce qu'il est au chocolat. Les babines encore colorées de cacao, il propose de faire la démonstration de ses talents de gardien de but. Effectivement, pour ce qui est des loisirs, précise Anne-Laure, si les envies de l'enfant sont en adéquation avec son projet de parcours personnel, nous faisons tout pour les réaliser. Cultiver la confiance. Alors que nous nous tournons vers Sylvie Dubois pour poursuivre la discussion, celle-ci est déjà à l'autre bout du jardin, partie à la rencontre de 2 visiteurs. Ce sont nos voisins. Ils viennent régulièrement nous porter des légumes. Ils ont une grande propriété où nous allons souvent avec les enfants. Au fil de l'échange avec ce sympathique couple, ces considérations potagères ont le parfum candide de l'adage de Voltaire « Il faut cultiver notre jardin ». Importance des joies simples, nécessité d'encourager les talents humains, on se laisse presque aller à des réflexions philosophiques quand Sylvie Dubois nous ramène sur terre sur le chemin de l'action. Nous collaborons avec une naturopathe qui fait travailler les enfants sur le jardin de la maison et pratique aussi l'aromathérapie. Et dans un autre registre, nous nous rendons fréquemment dans une pension pour chevaux, l'écurie des A, à Saint-Seurin-sur-l'Isle. Vous n'imaginez pas tout ce qui peut se passer entre l'animal et l'enfant. Entreprendre des expériences nouvelles, travailler sur la confiance, permettre d'exister individuellement tout en restant dans un groupe. L'approche du PASSAGE est à la fois intuitive et cadrée, évolutive et cohérente. On se dit que tous ces enfants ont un avenir et qu'on va les aider à le construire, conclut Sylvie Dubois, et on a confiance en eux. Mandavite au milieu des pins. Depuis 2009, Mathieu Dupuis et son épouse accueillent des jeunes à leur domicile du Barpe. Nous vivons avec eux et notre fille avec le soutien technique d'une équipe pluridisciplinaire, explique-t-il. En pleine campagne, au milieu des pins, ce lieu de vie et d'accueil héberge également de nombreux animaux, chevaux, ânes, poneys, chèvres, ainsi qu'une basse-cour, des chiens et des chats. Nous travaillons autour de la médiation animale qui aide à entrer en relation avec les jeunes. Mandavit héberge actuellement 5 enfants de 8 à 18 ans. Dans le Blayais, la fermette Marillac. À Saint-Christoly de Blaye, Richard Garin, son équipe et les nombreux bénévoles de l'association La Fermette Marillac accueillent 6 enfants à l'année. Ici, les équipements de la propriété s'étendent sur 1 hectare et comprennent piscine, potager, atelier, y compris de poterie. Sans oublier l'âne et les 2 chèvres. On s'occupe ensemble, les jeunes et nous-mêmes, de l'entretien des bâtiments, des animaux, du parc, du potager. Vivre ensemble, c'est aussi faire ensemble.
En chiffres, sur l'année 2016, 4613 jeunes ont fait l'objet d'une information préoccupante. 4200 jeunes ont été accueillis, placement. 6000 jeunes ont bénéficié d'une mesure d'aide éducative dans leur famille. Budget prévisionnel 2018 de la protection de l'enfance, 220 millions d'euros. 26 MEX, maisons d'enfants à caractère social, du secteur associatif. Près de 800 assistants familiaux en Gironde.
Point de vue d'Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et de la protection de l'enfance.
Il n'y a jamais de solution idéale dans l'absolu pour un enfant qui nécessite un placement en dehors de sa famille. Pour autant, prendre en charge les besoins de ces enfants, c'est savoir proposer des alternatives audacieuses et les plus individualisées possibles. Les lieux de vie et d'accueil permettent ainsi un accompagnement de proximité grâce à des personnes passionnées et très impliquées.
À la découverte, tête de Gironde, Émilie Baudret, mosaïste aux multiples facettes. À Plassac, la mosaïque a désormais un visage, celui d'Émilie Baudret, jeune artiste trentenaire qui, à son retour d'Italie, a installé son atelier Babylone Mosaïque dans le bourg. Un jet de pierre de la villa gallo-romaine, elle ambitionne de façonner un village musée dont les mosaïques publiques orneront petit à petit les ruelles et les façades.
Dans cet atelier, niché entre les girondines de pierre blonde en surplomb de l'estuaire, la couleur prend forme. On peut la toucher du doigt. Ce sont les pâtes de verre vénitienne, les smaltis aux teintes chatoyantes, les tesselles de marbre, les céramiques, les cabochons, les porcelaines, les fossiles, les coquillages. Des éclats à foison qui accrochent la moindre clarté et attirent irrésistiblement la main. Créer une mosaïque, c'est gérer les harmonies de couleurs, de formes et de lumière. La surface devient vibrante sous l'effet des mélanges optiques. C'est vraiment le matériau qui nous guide, explique la maître mosaïste Émilie Baudret. La mosaïque contemporaine est un univers de reflets, de pierres précieuses, habité par le scintillement, les volumes et les contrastes. Bénéficiant d'un souffle nouveau, cet art millénaire est en plein renouvellement et offre un champ d'expression très intense. D'agate et de verre soufflé. Sourire communicatif et regard azur immense, la jeune artiste accueille le succès avec un bonheur simple. Née à Blaye en 1985, elle affiche déjà un solide parcours. Licence en art plastique à l'université Bordeaux-Montaigne, puis une formation de maître mosaïste à l'école Spilimbergo au nord de Venise, reconnue comme pionnière dans la mosaïque contemporaine. « J'adorais peindre depuis l'enfance », se souvient-elle. « Mais au cours de mes études supérieures, je me suis rendu compte qu'il me manquait la matière. Grâce à la mosaïque, je peux peindre avec les couleurs et rajouter quelque chose de concret qui va structurer ma composition. » Inspirée par son amour de la nature, elle aime ajouter des éléments inattendus, qu'elle mélange aux verreries brillantes et colorées découvertes en Italie. Ainsi, une élégante méduse parée d'agate et de verre soufflé déploie ses tentacules en fil de débroussailleuse. Sur une autre création installée à ciel ouvert à l'entrée de la villa gallo-romaine, les grappes de raisin et les roseaux évoquant le bord de Gironde sont agrémentés de céramiques imprimées de végétaux locaux directement dans la matière. Jeu de piste artistique. Créée dans le cadre du projet Village Mosaïque, cette composition, hommage aux fleuves et aux territoires, a été réalisée par un groupe de stagiaires. En plus des nombreux cours actifs toute l'année, ces ateliers spécifiques ont lieu deux fois par an pour la création d'œuvres publiques. Ouverts à tous, à partir de 14 ans, ils font écho aux vestiges romains. C'est une façon très active d'ancrer la population locale en son patrimoine, affirme la jeune femme. Elle crée ainsi le dialogue avec les habitants et les touristes en les invitant à un jeu de pistes artistique qui est aussi une expérience sensible. Deux pièces imposantes, 1,70 m sur 1,10 m, réalisées au cours de l'été 2017, ont déjà été installées, la première devant le musée et la seconde face au fleuve. Cette année, une barque décorée viendra orner le port. Puis des cadres vides de grand format seront posés pour souligner les plus beaux panoramas du village. Un musée à ciel ouvert prend vie, comme autant de petits éclats semés de l'Antiquité à aujourd'hui. Atelier Babylone Mosaïque et Boutique, 1 place du Rey, R-E-Y, à Plassac. Site internet www.babylone-mosaic.com.
Tête de Gironde, Émilie Baudret, mosaïste aux multiples facettes. À Plassac, la mosaïque a désormais un visage, celui d'Émilie Baudret, jeune artiste trentenaire qui, à son retour d'Italie, a installé son atelier Babylone Mosaïque dans le bourg. À un jet de pierre de la villa gallo-romaine, elle ambitionne de façonner un village musée dont les mosaïques publiques orneront petit à petit les ruelles et les façades.
Joyau de village de Plassac, les vestiges d'une villa gallo-romaine disposent de parterres de mosaïques parfaitement conservées. Surnommée la villa de l'eau et du marbre par les archéologues, l'édifice d'une grande richesse est ouvert à la visite. Il a subi pendant 5 ans d'importants travaux de restauration et de mise en valeur financés par le département. Gironde.fr/Plassac.
Histoire. Quand les castors bâtissent un monde nouveau. Dans l'immédiate après-guerre, le problème du logement s'avère crucial. Le parc locatif insuffisant est vétuste. Des familles nombreuses vivent dans deux pièces où la salle de bain se réduit au lavabo de la cuisine et de jeunes couples résident chez leurs parents en attendant un appartement. Mais les castors sont là et vont inventer les prémices d'une société participative, exemple à Pessac.
Face à la situation du manque de logement, un jeune prêtre ouvrier, Étienne Damorin, 1920-1994, aumônier de la JOCF, Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine, après avoir obtenu une promesse de vente d'un terrain de 11 hectares 80 à Pessac-Alouette, entraîne 3 militants à Paris. Le 18 octobre 1948, ils font le siège du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme de 9h jusqu'à 18h, où ils seront enfin reçus par le ministre Eugène Claudius Petit, qui sera convaincu par le projet et la détermination des 3 délégués. Le terrain est livré aux ouvriers, employés, cheminots, qui commencent, durant plusieurs samedis et dimanches, à participer de leurs mains, sans beaucoup d'outils sinon pelles et pioches, à débroussailler le terrain du haut livrac. Mais le bouclage financier de l'opération n'est pas achevé, loin de là. En fin de compte, on optera pour un prêt à 75% plus rapide, tandis que la communauté apportera 25% du coût de la construction. Cette contribution sera fournie en apport travail au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Une première. 40 000 briques et 32 mois de construction. Les premiers déblocages de fonds en provenance de la caisse d'allocation familiale permettent d'acheter 40 000 briques provenant d'une société en liquidation, un camion d'occasion et quelques matériaux. Ces amateurs retroussent alors leurs manches et apprennent des métiers qui ne sont pas les leurs. Maçons, plombiers, couvreurs. Le premier bâtiment sorti de terre est le siège de la coopérative, avec l'aide d'ouvriers salariés qui, eux, sont là toute la semaine. Cette première cité des castors de 150 pavillons voit le jour après 32 mois de construction de mai 1949 à décembre 1951. Chaque sociétaire possède un certificat d'action du COL, Comité Ouvrier du Logement, lui donnant l'usage exclusif d'une maison qui est choisie seulement à la fin des travaux. Ils en parlent. modèle communiste de partage des biens de la production, mais aussi logique individuelle, chacun peut avoir accès à ce qu'il produit. On est entre deux systèmes politiques par la singularité du projet, selon Éric Chavier, sociologue. L'apport travail dépasse de loin l'apport économique en créant du lien social, dit Julie Goustin-Gory, historienne, petite fille d'un castor. Voir le film « L'utopie de Pessac » de Jean-Marie Bertineau, témoignage de Max Le Croard, 2011 pour France 3, France Télévisions. Lire « Les castors de l'Alouette » Daniel Bancon, Princi Nègre, éditeur, 1998.
Du 19 au 21 mai sera célébré le 70e anniversaire de la Cité des Castors à Pessac. Conférences, projections, films, visites. À cette occasion, des représentants de plus de 30 cités castors venant de toute la France seront présents à Pessac. Toute information au 09 54 73 44 83 ou sur www.cité-du-6-castor.com. En chiffres, 24 octobre 1948, début de l'aventure. 21 novembre 1948, création du comité ouvrier du logement. 22 décembre 1951, livraison de la dernière maison après 218 521 heures d'apport travail.
Trésor du patrimoine, dans le sillage des oiseaux migrateurs. Riche de ses zones humides protégées, la Gironde est une terre d'accueil historique pour les oiseaux migrateurs. Dès le printemps, ils reviennent d'Afrique. C'est le moment idéal pour se poster à l'affût dans quelques-uns des meilleurs spots girondins.
Terre d'oiseaux, immersion en terre sauvage. Au cœur des marais du Blayais, des parcours ont été aménagés avec des longues vues pour permettre aux visiteurs d'observer les espèces sauvages sans les déranger. Si les roselières sont le royaume des ravissants gorges bleues à miroir, le site accueille dès le printemps les majestueux hérons pourprés et les cigognes blanches qui viennent y nicher à leur retour d'Afrique.
Renseignements www.terredoiseaux.fr.
Île Nouvelle, royaume de la spatule blanche. Depuis 2010, ce bel échassier niche à nouveau en Gironde. Une vingtaine de couples a élu domicile sur l'île Nouvelle, aux côtés des hérons garde-bœufs ou des aigrettes gazettes. De nombreuses excursions sont possibles sur l'île. Embarquement depuis les ports de Blaye, Bordeaux, Cussac et Vitrezay.
Renseignements et réservations, gironde.fr/île-nouvelle en un seul mot.
Domaine de Certes et Graveyron pour les gorges bleues. Prairies inondées, zones d'élevage roselière, ces milieux naturels variés constituent un refuge pour une multitude d'espèces différentes. Très prisé par les gorges bleues à miroir qui viennent s'y reproduire, le site offre aussi une aire de repos aux spatules blanches ou aux barges à queue noire. Ici, les grands espaces ouverts permettent aux migrateurs de se sentir en sécurité. Ils voient les prédateurs arriver de loin.
Renseignements 05 56 82 71 79 gironde.fr/domaine-de-certes.
Réserve ornithologique du Teche, l'incontournable. Située sur le delta de la Lair, la réserve ornithologique du Teche accueille plus de 300 espèces sauvages d'oiseaux d'eau, sédentaires ou migrateurs. Au printemps, on peut voir les tadornes et les canards souchets, mais aussi les sarcelles d'hiver, les grandes aigrettes, la spatule blanche et le milan noir. La boucle de 6 km est ponctuée d'observatoires en hauteur, dont un belvédère qui offre une vue à 360 degrés sur le delta.
Renseignements www.reserve-ornithologique-du-teich.com. Pointe de Grave, au carrefour des migrations. Au nord du Médoc, la pointe de Grave constitue un passage obligé pour des centaines de milliers d'oiseaux arrivant d'Afrique. On peut y voir passer des espèces rares, comme le faucon cobès, le busard pâle ou les lagnons blancs. Depuis 35 ans, c'est ici que les scientifiques de la Ligue de protection des oiseaux comptent les migrateurs. La pointe de Grave est le seul site d'étude de la migration en Aquitaine.
Marais de Bruges, la biodiversité aux portes de la cité. Vestige du grand marais de Bordeaux-Bruges, cette réserve naturelle nationale est l'une des deux en France située en zone périurbaine, accessible en tram ou en voiture. Sur place, un parcours de 2,5 km équipé de 3 observatoires chemine le long de plans d'eau et de prairies. On y observe des hérons cendrés, des cigognes blanches, mais aussi des papillons, des tortues. 3500 espèces de plantes et d'animaux y ont été inventoriées.
Renseignements et réservations 05 56 57 09 89 et www.sepanso.org.
Lac de la Prade pour une balade paisible. Situé à 5 km du centre historique de Bazas, le lieu abrite des colonies de hérons cendrés tout au long de l'année. Dès le mois d'avril, le spectaculaire balbuzard pêcheur s'y arrête le temps d'une halte, avant de reprendre son vol vers le nord.
Renseignements, Office de tourisme du Bazadé, 05 56 25 25 84. Producteur de Gironde, Jean-Baptiste Vin Ramaroni, maraîcher de l'eau. Depuis 5 ans, Jean-Baptiste Vin Ramaroni cultive la spiruline, une micro-algue dont la richesse des qualités nutritionnelles soulève l'enthousiasme des organisations non gouvernementales comme de celui des adeptes du bien-être. Portrait de ce pionnier dans le département.
Elle ne mesure même pas un demi-millimètre, mais l'intérêt que suscite la spiruline est inversement proportionnel à sa taille. Cette micro-algue apparentée aux bactéries possède en effet une très haute teneur en protéines, en vitamines, en fer et en caroténoïdes, etc. La découverte de ses qualités a conduit depuis 30 ans au développement de sa culture dans les pays occidentaux où elle est consommée comme complément alimentaire, mais aussi en Afrique où, sous l'impulsion d'ONG, des fermes de spiruline se créent pour lutter contre la malnutrition. C'est un aliment exceptionnel, affirme enthousiaste Jean-Baptiste Vin Ramaroni. Une cuillère de spiruline par jour durant 3 semaines permet de sauver un enfant atteint de malnutrition. Créer sa propre ferme. L'homme la cultive depuis plus de 5 ans maintenant dans le village de Lugos. Avant cela, il a suivi une formation dans l'agroalimentaire et la nutrition et travaillé dans l'aquaculture à 7. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré une, puis 2 personnes, qui lui ont parlé de la spiruline et qu'il a commencé à s'y intéresser. Convaincu, il décide en 2011 de créer sa propre ferme aquatique. Les banques le suivent, de même que le département, via son dispositif d'accompagnement des projets agricoles. CREAG 33. L'implantation n'en est pas moins difficile. On est des maraîchers de l'eau. Il faut s'y connaître en hydraulique autant qu'en circuit de vente. C'est vraiment difficile et on a envie d'abandonner tout le temps, avoue-t-il. Mais il ne le fait pas, au contraire. Sa production passe de 15 kilos la première année à 40 la deuxième et 200 aujourd'hui. Le tout de façon artisanale. Parmi ses clients se présentent des profils les plus variés. Beaucoup de femmes, détaille-t-il, car la spiruline est très riche en fer. Mais aussi des végétariens l'utilisant comme substitutif à la viande, des sportifs désireux d'améliorer leur performance et leur récupération musculaire, ou simplement des personnes qui ont fait une cure un peu par hasard et décident de la renouveler, voyant le bien que ça leur fait. Cette année, avec des amis, Jean-Baptiste s'est aussi lancé dans la création d'une association afin de monter une ferme en Afrique. Un rêve personnel qui lui permettra non seulement de faire du bien aux habitants du département, mais aussi très au-delà. La spiruline du Val de l'Air. 3 bis impasse Péléou, 33830, Lugos. Téléphone 06 28 06 26 45. Adresse internet spirulinegirondine@gmail.com. Site internet www.spirulegre.fr/.
Recette. Smoothie revitalisant. Mélangez dans le bol de votre mixeur un verre de jus de pomme, un verre de lait d'amande, une grosse banane et 2 cuillères à café de spiruline en poudre. Mixez le tout jusqu'à obtenir un smoothie onctueux. Dégustez. Nota bene, si elle n'a pas d'intérêt gustatif particulier, la spiruline, de qualité, s'associera très bien à votre alimentation, notamment avec un yaourt, un verre de lait ou de jus de fruits, ou encore des pâtes, des légumes, une soupe.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires. Groupe socialiste, non à l'abandon des territoires ruraux. De par son attractivité, la Gironde est de plus en plus confrontée aux conséquences naturelles d'un afflux de population. Les problématiques liées au déplacement et à la hausse des prix de l'immobilier condamnent les plus précaires à s'éloigner toujours plus des centres-villes et renforcent ainsi la fracture sociale et territoriale. Un certain nombre de lignes TER jugées non rentables dans le cadre du rapport Spinetta sont aujourd'hui en sursis. Autant d'annonces brutales qui laissent penser que le gouvernement ne mesure pas les conséquences de telles décisions, notamment pour les territoires ruraux. Nous ne laisserons pas les Girondines et les Girondins se retrouver assignés à résidence car privés de moyens de transports essentiels. Rappelons que ces soi-disant petites lignes permettent à plusieurs millions de nos concitoyens de se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail, d'études, d'accéder à la culture et aux loisirs, de rester connectés au monde et de maintenir un lien social. N'oublions pas non plus que tout développement économique, touristique ou culturel de notre département devient impossible sans accessibilité. C'est pour cela que la majorité départementale souhaite intervenir à hauteur de 1 million d'euros sur le projet de rénovation de la ligne TER Libourne-Bergerac-Sarlat. C'est un engagement politique fort qui dépasse les compétences obligatoires du département. Et parce que vivre en milieu rural est aussi un choix de vie, il convient de proposer des solutions de transport adaptées aux besoins de déplacement des habitants. C'est notre vision de l'aménagement du territoire. Dans cette période de réformes successives, les collectivités territoriales ont besoin de constance et de garanties de la part du gouvernement, d'engagements concrets plutôt que de paroles qui changent au gré du vent. Rappelons au chef d'État et au gouvernement d'Édouard Philippe l'importance du rôle des collectivités territoriales qui concourent quotidiennement au bien-vivre de nos concitoyens. Rappelons-leur qu'il est également de leur devoir de garantir une qualité de service égale pour l'ensemble des Françaises et des Français, quel que soit leur lieu d'habitation. Rappelons-leur enfin que la ruralité a aussi des atouts et ne mérite pas d'être traitée avec un tel mépris, autant d'éléments qu'ils semblent avoir oubliés. Groupe politique socialiste 05 56 99 35 78 groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur groupe-ps@gironde.fr. Europe, écologie, les Verts.
Notre avenir, ce sont nos enfants. Avec son plan collège, la Gironde investit pour l'avenir de ses enfants. Depuis le début du mandat, le groupe écologiste a toujours exprimé ses inquiétudes sur les effectifs grandissants de nos collèges, la nécessité de nouvelles constructions, mais aussi de la réhabilitation du bâti existant. Avec le plan collège, le département prend la mesure de cette situation. Mais si le plan portera ses fruits après 2020, c'est dès 2018 que nous devons le programmer, et ce, avec l'aide des acteurs les plus concernés. Collectivités locales, associations de parents d'élèves, associations sportives et culturelles locales et éducation nationale. Afin d'atteindre les objectifs du développement durable dans tous les collèges de Gironde, c'est dans la concertation que tout se jouera. Europe Écologie Les Verts 05 56 99 67 03 Mail betty.piccioli@gironde.fr Betty B-E-T-Y .piccioli P-I-C-I-O-L-I Élu au pluriel -gironde.eelv.fr facebook.com/eelvcdgironde twitter@eluelv-8cd33
Gironde à venir. Carole Veillard, conseillère départementale de Gujan-Mestras. Pouvez-vous nous présenter votre canton ?
Il comprend 4 communes, Gujan-Mestras, Le Teche, Marcheprime et Mios, aux visages multiples entre ports, forêts, campagnes et zones urbanisées. C'est un canton attractif avec une forte pression démographique. On y trouve des activités traditionnelles, la conchyliculture, le nautisme, la pêche, la sylviculture. Des entreprises liées aux énergies renouvelables s'implantent aussi. Une centrale photovoltaïque a d'ailleurs été inaugurée à Mios.
Quelles sont vos priorités locales ?
Je suis une élue de proximité et travaille en étroite collaboration avec mon binôme Jacques Chauvet. Nous assumons les permanences chaque mercredi dans les communes. Sur notre canton, le manque de logement est un problème. En tant qu'élue, j'agis pour que les demandes de logement social puissent aboutir. Concernant les infrastructures routières, elles se développent rapidement et je reste vigilante sur les travaux de voirie. Enfin, le tissu associatif est très riche sur le bassin. Je soutiens de nombreuses demandes de subventions. J'ai été heureuse de voir nos joueurs de rugby fauteuil étrenner leur nouveau matériel grâce à une aide du département.
Un sujet vous tient particulièrement à cœur.
Membre assidu de la commission Relations avec les usagers et accès numérique au département et du syndicat Gironde numérique, je suis très attentive au déploiement du plan Oméga sur mon canton. Celui-ci n'est pas considéré comme rentable par les opérateurs. Or, l'accès au haut débit est essentiel pour son développement économique et l'accès aux services des administrés.
L'accès au haut débit. Pourquoi ? Gironde à venir, groupe d'opposition de la droite et du centre, gironde-avenir.fr, 05 56 99 55 87 ou 05 56 99 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook. Front national.
80 km/h, une décision inacceptable. Alors que l'association 40 millions d'automobilistes a récemment démontré que la limitation à 80 km/h sur les routes départementales augmentait le nombre d'accidents, le gouvernement de M. Macron semble s'obstiner dans la mise en place de cette mesure. Il faut moderniser les routes pour les rendre plus sûres. Mais il est tellement plus simple de compliquer les déplacements des Français et tellement plus rentable de multiplier le nombre de radars. Dans les territoires ruraux, la voiture est souvent l'unique moyen de déplacement. Il serait bien que les élites parisiennes s'en souviennent. Grégoire de Fournasse, Front National, retrouvez-moi sur Facebook et sur fn-medoc.com. Téléphone 07 82 32 50 94.
Debout la France, Macron, l'artisan de la casse sociale. Dans un contexte de propagande pro-Macron, l'argument est bien rodé, encensé par les médias du service public pour nous faire croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Des moyens financiers, une capacité à rassembler, lui qui ne connaît ni la vraie vie, n'aime ni le peuple ni la proximité, collectionne les réformes faites à la hâte pour transformer la France. Nos institutions sont blackboulées. Les réformes sur le code du travail, la CSG, la formation, les retraites, l'assurance chômage créent une fracture plus grande encore entre les élites et le peuple. Macron, au lieu de vouloir transformer la France, ne devrait-il pas plutôt la reconstruire ? Sonia Colmain, Debout la France, 07 50 29 07 09. Agenda. Le département les soutient. Voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde.
Road Movie, jeudi 12 avril, Blaye. Le cinéma Zoétrope de Blaye accueille l'avant-première du film Ici et maintenant. La Gironde s'invente. Le département explore de nouvelles voies à travers ses politiques pour inclure tous les habitants et bâtir en commun un futur plus respectueux des êtres et de l'environnement. Sous la forme de Road Movie, les réalisateurs Chloé Legrand et Olivier Desagna, de l'association DASC et d'ailleurs, offrent une vision très incarnée et sensible de ce dessin collectif. À voir dès 18h. gironde.fr/la-gironde-s'invente. S'invente en un seul mot. Cinéma de Blaye-zoétrope.fr. Cinéma de Blaye en un seul mot, Zoétrope en un seul mot.
Littérature. 14 et 15 avril, Gujan-Mestras. La Maison des Arts de Gujan-Mestras accueille, pour la 4e année consécutive, le Salon du Livre, Les mots en liberté, organisé par A4PM. L'événement accueille une trentaine d'auteurs auto-édités, tout prêts à discuter avec les visiteurs et, bien sûr, leurs lecteurs. Rendez-vous est pris. a4pm@orange.fr.
Nature. 16, 23, 29 avril et 2 mai, Le Teche. Au sud-est du bassin d'Arcachon, sur la commune du Teche, une sortie nature est proposée accompagnée par un guide naturaliste. La balade permet de se laisser aller à la découverte autour des plaines de Fleury dans le delta de l'Eyre. Une réservation est obligatoire pour cet événement organisé en partenariat avec le département. Téléphone 05 24 73 37 33.
Asperges. 28 et 29 avril, Étaulier. La communauté de communes de l'Estuaire organise un événement incontournable, la fête de l'asperge du Blayais. Plus de 10 000 visiteurs font le déplacement chaque année. La Reine Blanche se déguste sans modération et profitez de ces deux journées pour arpenter les allées du grand marché gastronomique qui valorise aussi les produits du terroir de la Haute-Gironde. Concerts gratuits et animations sont aussi de la partie. 05 57 42 61 99 ou 05 57 32 88 88 www.lafetedelasperge.com.
Vignoble. Vendredi 27 avril, Villeneuve-d'Ornon. Des siècles et des vignes en bordelais. C'est le rendez-vous que propose Aquitaine Historique au château Couens. Rencontres, conférences et débats sont au programme sous la houlette d'universitaires et spécialistes du monde viticole bordelais. De la proto-histoire à nos jours, en passant par le Moyen-Âge, vous saurez tout sur la vigne, le vignoble et le vin. 05 56 30 77 61.
En Gironde, la nature fait son spectacle. Sur l'île Nouvelle, 21 avril après-midi et 22 avril au matin, située sur un axe de migration important, l'île Nouvelle sert de halte migratoire pour un grand nombre d'oiseaux lors de leur périple. Venez les découvrir au gré d'animations gratuites. Le dimanche 13 mai, les oiseaux pour les nuls, parce que l'ornithologie n'est pas réservée aux experts, de la mésange à la spatule, venez vous initier à l'ornithologie sans réserve et sans complexe. Les 19 et 20 mai, vous aimez jouer ? Vous apprécierez le rendez-vous de Surf Rider, au programme une enquête sur l'estuaire, un parcours semé d'énigmes ayant pour thème la nature, l'histoire, l'environnement et l'écologie. Les visiteurs pourront développer les connaissances nécessaires pour, à leur tour, devenir des gardiens de l'île. Renseignements 05 56 82 71 79. Autre spectacle de la nature, Martillac. 9, 13 et 20 avril, laissez-vous tenter par la magie de la forêt de Migelane. Lors de l'une de ces trois journées découvertes, dépaysement garanti. Réserve naturelle géologique de Socats à la Brède. Téléphone 05 56 72 27 98. Et puis Lanton, 5 et 13 avril. Original, elle le sera cette balade naturaliste en kayak de mer proposée par l'Office de tourisme Cœur de Bassin d'Arcachon. Alors, mouillez-vous, sans hésiter. Téléphone 05 57 70 67 56. Et encore, Rion et Paillé, 6 et 29 avril. Into the ZE Land, c'est une balade lecture en musique sous la houlette de Sébastien Laurier et la compagnie L'Espèce Fabulatrice. Ou, dans le décor magnifique de l'île de Raymond, sur les territoires des communes de Rion et Paillé. À vos oreilles et vos yeux, grands ouverts. Communauté de communes, Convergence Garonne, téléphone 05 56 62 72 98. Et enfin, Socats, La Brède, 4 et 26 mai, succombez à l'invitation à la découverte de la réserve géologique de Socats, La Brède, l'un des joyaux inestimables que recèle la Gironde. Téléphone 05 56 72 27 98, gironde.fr/nature. Musique, 18, 19 et 20 mai, Talence, le parc Peixoto, accueille la 4e édition du festival ODP au profit des orphelins des pompiers de France. Sa programmation est particulièrement alléchante. Alt-J, Ibeyi, Da Silva, Les Négresses Vertes, Cœur de Pirate, Gauvin Serre, mais aussi Laurent Lamarcas, Suprême NTM, Baloji et Dacha Mandala. De la musique pour tous les goûts. www.festival-odp.com.
Basket. 19 et 20 mai, Pessac. L'entente Pessac Basket Club organise son 39e tournoi international de la Pentecôte, ouvert aux licenciés de 6 à 15 ans. Il verra en découdre les jeunes talents de plusieurs catégories, du mini-basket au minime, en filles et garçons. Plus de 75 équipes sont attendues, soit plus de 700 joueurs. 06 63 18 95 36 Dupéré.jeanmichel en un seul mot @bbox.fr. Dupéré s'écrivant D-U-P-E-R-E.
Patrimoine. Samedi 26 mai, Cartelègue. Dans le cadre du 20e anniversaire de l'inscription des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au patrimoine mondial de l'UNESCO, le collectif Patrimoine de Haute-Gironde propose un rendez-vous placé sous le thème d'itinérance et migration. Balades autour des sites patrimoniaux, à pied, en vélo et en voiture, conférence de M. Marc Martinez, l'itinérance et les migrations des hommes ont débuté dès la préhistoire, table ronde, exposition, animation, contes et spectacles sont au programme. Le département est au rang des partenaires de l'événement. Adresse mail collectifpatrimoine hg en un seul mot @gmail.com. Site internet patrimoine htegironde.wixsite.com/collectif au singulier.
Balade nature, 1er et 2 juin, Aisine. Participez au raid des maraîchers, balades à pied ou à vélo, avec des étapes chez les exploitants, mais aussi un marché des producteurs, donneront à cette journée un authentique goût de printemps. raid.maraîcher au pluriel @aisine.fr.
Art de la piste, 8 et 15 juin, Gironde. Dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle au fil de l'eau, un spectacle singulier est proposé. Duo d'escalier de la compagnie Née d'un doute, coproduction IDAC, visible à partir de 6 ans. Le vendredi 8 juin, à découvrir dès 20h30, sur le territoire de la communauté de communes Convergence Garonne. Lieu précis communiqué lors de la réservation au 05 56 76 38 04. Le vendredi 15 juin, à découvrir dès 20h30, sur la communauté des communes du Réolais en Sud-Gironde, lieu précis communiqué lors de la réservation, au 05 56 71 71 63.
Moustique, 13 juin, Bordeaux. La Gironde est classée en zone de lutte contre les moustiques. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Gironde, CAUE, et l'établissement interdépartemental pour la démoustication, EID Atlantique, vous invite à une conférence sur le thème « Halte aux moustiques tigres, les bons réflexes ». Vous êtes tous concernés. Dès 18h, l'accès à la conférence est gratuit. CAUE, 283 rue d'Ornano, à Bordeaux. Adresse internet www.cauegironde.fr. CAUE Gironde en un seul mot.
Livre, 13 et 14 juin, Bordeaux. Nouvelle opération de désherbage dans les bibliothèques du réseau Biblio Gironde. Les sites de lecture font de la place pour enrichir leurs collections. Depuis 6 ans, est organisée une vente de livres et de documents à 1 euro. Le rendez-vous est fixé à Bordeaux dans le hall de l'immeuble de Gironde, cours du maréchal Juin. Pour tous les autres lieux de vente à travers la Gironde, consultez biblio.gironde.
MDSI Portes Ouvertes, jeudi 14 juin, Bordeaux. Être au plus près des habitants est l'un des objectifs premiers des 36 maisons départementales de la solidarité, MDSI, du territoire girondin, regroupées au sein des 9 pôles territoriaux de solidarité, PTS. C'est pour se faire mieux connaître que les MDSI de Bordeaux organisent cette journée portes ouvertes. Venez découvrir ce que recouvre le champ de la solidarité et les métiers de ses acteurs. Site internet gironde.fr/mdsi-bordeaux. Donneur de sang. Jeudi 14 juin, Bordeaux. Donner son sang peut sauver des vies. La journée mondiale des donneurs de sang est l'occasion, si vous ne l'avez déjà fait, de franchir le pas. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France et les besoins augmentent de 4 à 5% par an. La générosité peut être aussi simple que ce geste-là. Établissement français du sang, EFS, ud33.fr et don de sang au singulier en un seul mot, -ud-gironde.
Gironde Mag, le magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71-223, 33-074 Bordeaux CEDEX, téléphone 05-56-99-33-33, directeur de la publication Frédéric Duprat, rédacteur en chef Didier Beaujardin, coordination Laurence Tauzin, rédaction Didier Beaujardin, Stéphanie Coy, Sophie Dussaussois, Laure Espieux, Gwenaël Goyer, Amélie Kolk, Sophie Poirier, Carole Ratier, Damien Trident, Richard Zéboulon. Crédit photo. Anaka, ARS, S. Carlier, PNRLG, CAUE, Gironde, J. Damaz, Dournay, Maitechu Echevarria, Festival Dissidence, Michel Frisquet, Roland Gaillard, Gironde Tourisme, Gwenaël Goyer, Guy Labadins, Sébastien Laurier, Sébastien Leclésio, Mairie de Ponensac, Aurélien Marco, Christophe Modica, Office du Tourisme du Porge, Olivier Parier des Touches, Punch Memory, Paul Robin, dont photo de couverture, Sandillon 2016, Photo Bordeaux, offert par les photographes du Goriac, IPG Photo, Sébastien Saint-Deux, Territoires Imaginaires, Richard Zéboulon, Conception Graphique, Agence SEPA, S-E-2-P-A, Bordeaux, Prépresse et Chromie, Scoop Communication, Olivet Impression sur Papier FSC Recyclé 100%, Imaille Graphique à Laval, Dépôt Légal Apparition, Tirage 559 500 exemplaires, ISSN 1141-5932, Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez vous aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24. En quatrième de couverture, une illustration d'une longue ligne droite. En haut, dans un cadre noir comme un faire-part, ce texte.
Ici, Pierre a battu ce record de vitesse, pour la dernière fois.
80 morts par an sur les routes de Gironde, changeons nos comportements.